Merci pour l'invitation. Vous m'entendez là, ça va? J'ai pas beaucoup de voix, donc si jamais la voix baissait, il faut me faire un signe. Je vais essayer d'aborder trois points pour honorer le titre qui m'a été proposé. Premier point, je vais essayer de faire un peu un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui en Europe autour des dettes publiques, parce que je pense que c'est lié à la question financière et disons à la question bancaire. Deuxième point, quelques propositions de réforme de la sphère financière. Et troisième point, pourquoi ça bloque? Disons un peu une petite relecture, on pourrait dire, sociologique et spirituelle de ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui d'avancer sur cette question. Premier point, l'état actuel de la situation. Je crois qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut dire d'emblée, c'est que, bon, vous savez tous que beaucoup des pays de la zone euro sont très endettés, ont une grosse dette publique, ont également une grosse dette privée, dont on parle moins, mais qui est au moins aussi importante que la dette publique. Dans certains pays, beaucoup plus importante. Hein. En Espagne, c'est beaucoup plus lourd, la dette privée, que la dette publique. C'est un vrai problème, mais la solution, à mon sens, et beaucoup d'économistes de plus en plus maintenant sont d'accord avec moi et d'autres sur cette question, les plans d'austérité, nous ne nous en sortirons pas. Ça ne sert à rien de faire de l'austérité si c'est pour juguler le problème des dettes publiques, pour une raison simple qui est connue, en fait, très connue des économistes, que je résume en une minute, qu'on appelle l'effet boule de neige. Lorsqu'un pays doit emprunter à un taux d'intérêt moins l'inflation, donc ce que les économistes appellent le taux d'intérêt réel, le taux d'intérêt moins l'inflation, qui est supérieur à son taux de croissance, que traditionnellement on mesure à travers la croissance du PIB, alors sa dette publique augmente mécaniquement, puisque la taille de sa dette augmente plus vite que la taille du gâteau du pays. Sauf s'il avait des excédents budgétaires énormes qui lui permettent de compenser la faiblesse de l'augmentation de la taille du gâteau. Des excédents budgétaires énormes, ce n'est pas à l'ordre du jour du moindre pays de la zone euro avant 10 ans, donc on peut oublier tout de suite. Et donc, c'est simple aujourd'hui pour savoir si un pays va pouvoir un jour rembourser sa dette, pour calculer son taux d'emprunt, vous enlever l'inflation, pour garder son taux de croissance, qui est à peu près nul pour tout le monde maintenant, et vous dites, voilà, si c'est supérieur, il n'a aucune chance de pouvoir rembourser sa dette, il n'y arrivera pas. Même si vous êtes canadien, tous les fonctionnaires du pays, ce n'est pas la question. Alors c'est le cas en Grèce, vous avez bien vu, hein, la Grèce a maintenant moins 6% de PIB de déficit public, pourtant ça fait un an et demi qu'on lui inflige des plans d'austérité qu'il a saignés à blanc, et sa dette publique est passée de 120 à 160%. Donc non seulement ça n'a pas réduit la dette, mais ça a même fait exploser encore plus. Et donc comme vous le savez aussi, la situation en Grèce aujourd'hui est vraiment catastrophique. Je pense qu'on est sous-informé en France sur ce qui se passe en Grèce, puisque 200 000 personnes ont quitté Athènes, faute de pouvoir y vivre. La moitié des magasins à Athènes est fermée aujourd'hui. Les hôpitaux et les pharmacies n'ont plus de médicaments. Et le taux de VIH a augmenté de 50% en un an. Pas parce que les Grecs n'auraient plus les moyens de s'acheter des préservatifs, mais, si l'on en croit la directrice du centre de prévention des maladies sexuellement transmissibles à Athènes, parce que les jeunes Grecs s'inoculeraient le sida pour pouvoir percevoir les allocations réservées aux séropositifs de 600 euros par mois, qui sont les seules qui n'aient pas encore été supprimées. Parce que quand vous êtes un jeune grec au chômage aujourd'hui, vous n'avez droit ni aux allocations chômage, ni au RMI, ni au RSA, rien du tout. Donc, apparemment, des grecs s'inoculeraient le sida pour nourrir leur famille, parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Sachant que beaucoup d'entre eux ont quitté le pays, chez les jeunes, d'autres sont retournés au champ, pour ceux qui peuvent cultiver. Donc la Grèce aujourd'hui vit une régression à l'état de pays d'Afrique subsaharienne que nous ne soupçonnons pas, mais qui est incroyable, impressionnante. Et ceci, c'est ça qui est important, c'est en pure perte. Ça ne sert strictement à rien si c'est pour réduire la dette publique. La dette publique grecque continuera d'augmenter puisque nous prêtons nous-mêmes à la Grèce à un taux supérieur au taux de croissance de la Grèce puisque ce taux est négatif, il est moins 6% du PIB. Donc en fait, il faudrait payer la Grèce pour qu'elle nous emprunte, pour que ce soit jouable pour eux. Autrement dit, il faut annuler une partie de la dette grecque. C'est bien ça l'enjeu des négociations en ce moment. Vous savez que ça a été acté le 26 octobre dernier. Donc les banques européennes, essentiellement françaises et allemandes, se sont mises d'accord officiellement pour consentir à une restructuration de 25% du nominal total de la dette grecque, soit 50% de la part de cette dette qui est détenue par les banques. Au total, ça ne fait que 25%. La presse a été très ambiguë là-dessus en disant, ça y est, on a restructuré la moitié de la dette grecque, c'est pas vrai. Ce qui a été acté, c'est un quart, puisque ça correspond à la moitié de ce qui est détenu par les banques essentiellement français et allemand. Mais même ça n'est pas entré dans les faits aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis le 26 octobre, nos amis banquiers traînent des pieds pour que cette restructuration n'ait pas lieu. Pourquoi prennent-ils des pieds? Alors, pour une mauvaise raison, qu'ils ne veulent pas perdre évidemment l'argent qu'ils ont prêté. Mais à ce moment-là, on peut leur poser la question, pourquoi ont-ils prêté la Grèce? C'est une vraie question qu'il faut poser, parce qu'ils n'ont pas découvert aujourd'hui que la Grèce n'avait aucun moyen de rembourser. La Grèce, c'est du transport maritime et un peu de tourisme. Les olives grecques sont les plus chères de la zone euro. La Grèce n'a jamais eu d'industrie, elle n'en aura pas demain matin, elle ne peut pas payer en fait. Donc les investisseurs qui ont prêté des milliards à l'État grec entre 2001 et 2007 savaient très bien qu'ils ne pourraient pas rembourser. Mais ils espéraient soit un miracle grec, bon, on peut toujours y croire, hein, soit que les contribuables européens paieraient à la place des Grecs. Et c'est bien ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, donc voilà un petit peu. Alors, pourquoi? Et la bonne raison pour laquelle les banquiers résistent, et là, à mon avis, ils ont raison de s'inquiéter, c'est que vous avez l'énorme problème de ce qu'on appelle des CDS, et donc c'est là que vous voyez que la finance entre dans le tableau. Les CDS, les Credit Default Swaps, ce sont des actifs financiers que vous pouvez échanger sur des marchés dits de gré à gré, donc des marchés opaques, sur lesquels les autorités de marché financier n'ont pas de visibilité, ou très peu, et qui servent de contrat d'assurance. Donc je peux, par exemple, acheter un CDS si je crains que demain matin la Grèce fasse un défaut, c'est-à-dire ne donne pas une partie de sa dette. Mais à la grande différence avec les contrats d'assurance classiques, le droit des assurances, les CDS vous permettent de vous assurer sur un risque que vous ne portez pas. Autrement dit, j'ai le droit d'acheter des CDS, même si je ne détiens pas dans mon portefeuille de dette publique grecque. Donc c'est comme si je pouvais m'assurer sur la maison de mon voisin. Je ne suis pas propriétaire de cette maison, mais j'ai le droit de m'assurer dessus. Et qui plus est, j'ai le droit de m'assurer plusieurs fois. C'est ce qui est également interdit dans le droit des assurances classiques. En droit des assurances, vous avez le droit de vous assurer sur le bien que vous possédez, par exemple votre maison, mais vous n'avez pas le droit d'assurer deux fois ou trois fois. Vous pouvez l'assurer une fois. Donc là, les CDS, c'est comme des contrats d'assurance, sauf que c'est des actifs financiers qu'on échange sur des marchés opaques, qui vous permettent de vous assurer plusieurs fois sur un risque que vous ne portez pas. Alors vous imaginez bien que si je m'assure 40 fois sur le risque d'incendie de la maison de mon voisin, au bout d'un moment, j'ai une petite incitation à mettre le feu à la maison de mon voisin. Ça se fait. Alors aujourd'hui, la grosse difficulté avec la restructuration de la dette grecque, c'est que personne ne sait exactement qui a acheté et qui a vendu des CDS sur la Grèce. Et donc si demain matin la Grèce faisait un gros défaut, ce qui sera inévitable, je le redis, à cause de l'effet boule de neige, même si on euthanasie tous les fonctionnaires grecs. Donc si demain la Grèce fait un gros défaut, on ne sait pas qui devra rembourser des assurances à qui en Europe. On a une vague idée, mais c'est très très flou, parce qu'il est très vraisemblable que ceux qui ont vendu des CDS, autrement dit ceux qui jouent le rôle des assureurs dans cette tractation financière, seront eux-mêmes incapables de payer. Donc seront eux-mêmes mis en faillite par le défaut de la Grèce. C'est ce qui s'est passé à la fin de l'année 2008, au moment où Lehman Brothers a fait faillite le 15 septembre. En fait, on a découvert à ce moment-là, et les autorités américaines ne le savaient pas, sinon elles n'auraient pas laissé tomber Lehman Brothers en septembre, on a découvert que Lehman avait été souscrite, avait été assurée, si vous voulez, 50 fois sur la planète financière. Donc le 15 septembre 2008, c'est comme si 50 Lehman Brothers avaient fait faillite. Il a fallu rembourser les dettes de Lehman 50 fois. Évidemment, il y a plein de gens, plein d'investisseurs qui étaient incapables de tenir leur engagement, qui ont été mis en faillite par le défaut de Lehman. Oui. Donc c'est ça le risque majeur aujourd'hui d'une restructuration de la dette grecque. Oui. Alors, on peut comprendre du coup que les banquiers disent, réfléchissons-y à deux fois, avant de restructurer la dette grecque. La question c'est pourquoi n'a-t-on pas réglementé les marchés des CDS depuis 3 ans? On aurait pu le faire il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que Jean-Pierre Jouliet, qui est patron de l'autorité des marchés financiers en France, qui est un catholique convaincu, engagé, dit qu'il faut réglementer ce marché parce que c'est trop dangereux. Et aujourd'hui, on est complètement bloqué parce qu'on ne l'a pas réglementé, donc on ne sait pas qui va se retrouver en faillite si la Grèce fait défaut. En tout cas, c'est difficile de le savoir. Donc on est complètement paralysé à cause de ça. Oui. Alors, donc, premièrement, les plans d'austérité ne servent à rien si c'est pour juguler les dettes publiques. Alors, on peut avoir d'autres objectifs en faisant un plan d'austérité, mais si c'est pour ça, ça ne sert à rien. Ensuite, il y a 3 solutions actuellement qui se dégagent. Une première qui est celle qui vient d'être remise au premier plan par Angela Merkel dans son discours hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui est de nouveau l'intégration politique et budgétaire. Alors, j'y suis favorable comme à peu près tout le monde qui croit au projet européen. C'est-à-dire avancer à marche forcée vers un gouvernement européen, démocratique de préférence, qui contrôle le budget de l'ensemble des pays de la zone euro. La COMECE, la conférence des évêques d'Europe, a fait une grande déclaration le 12 janvier dernier, qui doit s'intituler quelque chose comme pour une intégration responsable et solidaire au sein de la communauté européenne dans le cadre d'une économie sociale de marché. Titre un peu long, mais en gros, il y a tous les mots que je viens de dire, peut-être dans un ordre un peu différent. Ça date du 12 janvier, et personnellement, j'avais été envoyé par la conférence de France pour être membre de la délégation française pour la rédaction de cette déclaration de la Commission. Je peux vous dire qu'il y a eu des débats homériques sur cette déclaration. Finalement, elle est quand même sortie, heureusement. Et là, les évêques européens se prononcent de manière extrêmement claire en faveur de l'intégration politique et budgétaire. En disant, c'est impossible de construire une Europe sur le seul pilier d'un marché économique unique avec une monnaie unique. Il faut absolument développer le pilier politique. Et ça, ça passe par une intégration budgétaire. Les Allemands disent qu'ils sont tout à fait pour. Donc, Angela l'a redit il y a deux jours. Wolfgang Schäuble, le ministre de l'économie et des finances allemand, pousse dans cette direction depuis des semaines. Il semble, si je comprends bien ce qui se passe dans les tractations entre pays, que ce soit surtout la France et un certain nombre d'autres pays qui freinent dans cette direction. C'est-à-dire que nous, ça nous gêne, et on peut le comprendre, hein, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais nous, ça nous gêne de céder une partie de notre souveraineté, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Vous voyez bien que construire un budget européen, ça veut dire que la France renonce à une part de sa souveraineté. Et évidemment, dans le contexte actuel, vu le pouvoir prédominant des Allemands, de nos amis allemands, ça veut dire céder une part de notre souveraineté à nos amis allemands, ce qui rend la chose un peu plus compliquée. Voilà. Mais il faut bien comprendre aussi, inversement, qu'actuellement, aucun touriste allemand ne peut descendre en Grèce, hein, ce qui se fait lâcher. Donc il faut savoir aussi où on en est actuellement en Europe. Hein. Bon. Ça, c'est la première solution, l'intégration budgétaire. Moi, j'y suis très favorable. J'espère qu'on va avancer. Cela dit, vous comprenez bien que ça ne se fait pas en trois jours. C'est impossible. Hein. C'est beaucoup trop compliqué. Les enjeux politiques sont énormes, techniques. Donc ce n'est pas ça qui va permettre à la Grèce de passer le cap du 15 mars prochain, où elle a une échéance de dette de 14,5 milliards, que pour l'instant, elle ne sait pas comment, on ne sait pas comment elle en aura, puisque personne ne lui prête actuellement. Donc ce n'est pas l'intégration budgétaire qui serait la solution à court terme. C'est la solution à moyen terme. Ils ont deux ou trois ans. J'espère qu'on va avancer dans cette direction, à condition que les gouvernements élus, aussi bien en France qu'en Allemagne à la fin de cette année, veuillent avancer dans cette direction. Deuxième grande option, qui elle peut être mise en œuvre en trois jours, c'est la monétisation des dettes publiques. Alors derrière ce mot apparemment technique, c'est très simple, ça consiste à réviser les traités européens de manière à autoriser la Banque Centrale Européenne à financer directement les États. C'est-à-dire à faire marcher la planche à billets, pour parler clair, en rachetant les dettes publiques des États. Actuellement, vous avez peut-être vu que la BCE le fait, mais elle ne fait que racheter de la dette publique sur le marché secondaire. Donc ce qui se passe, c'est que un État comme la Grèce, ou l'Italie, ou l'Espagne, ou la France, émet de la dette publique, ou des bons du trésor, des obligations d'État, qui sont achetées essentiellement par des banques, des fonds de pension, des institutions financières. Et la BCE, elle en rachète. Ben, évidemment, elle en rachète un peu plus cher. Il y a toujours une petite marge qui est prise, et c'est bien normal. Donc c'est une opération qui est très profitable pour les banques. Donc ça, elle veut bien jouer à ce jeu-là. Par contre, que la BCE puisse racheter directement à l'État en court-circuitant la case banque ou institution financière, ça, c'est beaucoup moins intéressant pour un certain nombre de ces institutions. Et les traités européens l'interdisent normalement. Et nous sommes la seule région du monde à prendre au sérieux cette interdiction dans l'état d'urgence financière dans laquelle nous nous trouvons. Hein, l'Angleterre est revenue dessus complètement et autorise la Banque centrale d'Angleterre à racheter directement de la dette publique britannique. Les États-Unis le font depuis des mois de manière massive. Non, nous ne le faisons pas. Et là, il y a un point de résistance. Cette fois-ci, ce n'est pas chez nous les Français, c'est chez les Allemands. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent, disent-ils, la séquence mortelle. Création monétaire implique inflation, qui implique hyperinflation, qui implique Adolf Hitler au pouvoir dans trois ans. Donc je passe 30 secondes à dire que cette implication logique-là est fausse, à mon avis. Toutes les étapes sont fausses. Création monétaire implique inflation. C'est vrai si vous jetez de l'argent par la fenêtre. C'est d'accord, si vous faites marcher la planche à billets, que vous jetez de l'argent par la fenêtre, c'est sûr que rien ne se passe dans l'économie, vous avez juste mis plus d'argent dans l'économie, donc les prix vont augmenter mécaniquement. Par contre, si c'est pour faire de la création de valeur économique, ça n'est pas inflationniste. Tout dépend de la manière dont on utilise l'argent qui est créé, évidemment. Donc moi, à titre personnel, je serais très favorable, par exemple, à un grand plan d'investissement de transition énergétique, écologique, climatique, dont nous avons absolument besoin en Europe, financé par la planche à billets. Quitte à ce que ça passe par une banque européenne d'investissement qui a le droit de se refinancer sans modifier les traités européens auprès de la BCE. Je ne rentre pas dans les détails de cette affaire-là, on en parlera si vous voulez tout à l'heure. Mais voilà, premier, si vous voulez, verrou qui devrait sauter, c'est création monétaire n'implique pas ipso facto inflation. Ensuite, dans l'esprit de beaucoup d'analystes outre-Rhin, mais aussi en France, hein, l'inflation implique hyperinflation. Ça aussi, c'est faux. On pouvait très bien avoir de l'inflation à 6% par an, ce qui commence à coûter cher aux ménages, mais ce qui allège le fardeau des dettes publiques et privées sans que ça dérape à 200%. Et la preuve en est que vous avez des tas d'économistes tout à fait, honorables, qui sont favorables à une réévaluation, si vous voulez, du mandat accordé à la BCE, qui est actuellement de maintenir une inflation à 2-2,5% par an, à 4 ou 6. Donc Olivier Blanchard, l'économiste en chef du FMI, un Français, et son prédécesseur, Kenneth Rogoff, qui est un grand économiste américain, ont tous les deux écrit pour dire qu'on pourrait peut-être quand même passer à 4 ou 6 parce que c'est ce qu'il y aurait moins idiot à faire aujourd'hui. Et ils se sont tous fait fusiller par tous les banquiers centraux de la planète qui sont incroyablement orthodoxes et bloqués sur la question du 2%. Ils croient que si on va au-delà de 2%, on dérape forcément vers le 200%. J'aimerais bien savoir pourquoi. Troisième étape, l'hyperinflation, ça implique Adolf Hitler au pouvoir, ça aussi c'est faux, historiquement. Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, après 3 années de plans d'austérité mis en place par le chancelier Brüning. Donc ce qui fait arriver Hitler au pouvoir, c'est pas l'hyperinflation allemande, parce que ça c'est sous la République de Weimar, 1923-1925, c'est la déflation, c'est l'austérité. Alors là, je suis d'accord, si nous voulons absolument qu'un parti d'extrême droite populiste arrive au pouvoir dans les grands pays de la zone euro, pas seulement en Hongrie, en partie en Grèce, hein. Vous savez que l'extrême droite est au gouvernement grec maintenant. Si on veut que ça arrive en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, il faut continuer l'austérité budgétaire. Ça plonge les classes moyennes dans le désespoir. Et une fois qu'on est plongé là-dedans, on ne sait pas comment on sort, la déflation, hein, vous voyez ce que c'est, les prix commencent à baisser à cause du ralentissement de l'activité économique. Tous les acteurs économiques se disent « Ah bon, mais demain ce sera moins cher, donc je reporte mes décisions de consommation à demain. Si je suis une entreprise, je reporte mes décisions d'investissement à demain, ce sera moins cher. Demain, je constate que les prix ont baissé, je me dis « Ah ben j'ai bien une raison d'attendre, je vais attendre un jour de plus. » Et puis on continue comme ça, tout le monde attend. L'activité tombe dans le coma, le chômage explose, la précarité aussi. Et une fois qu'on est rentré dans cette spirale déflationniste, on ne sait jamais comment on en sort. Personne ne sait comment on en sort. Le Japon est là-dedans depuis 20 ans. Le Japon a eu une crise de subprime localisée au Japon au début des années 90, est tombé dans la déflation et depuis 20 ans ne sait pas en sortir. À vous faire maintenant des plans de relance herculéens, ça ne sert plus à rien. L'activité japonaise est complètement léthargique. Oui. Dans les années 30, nous étions également tombés dans la trappe déflationniste. Nous n'en sommes sortis en réalité que grâce à la guerre, malheureusement. C'est-à-dire que même les plans de relance de Roosevelt aux États-Unis, c'est pas clair qu'ils aient vraiment permis aux États-Unis à l'économie américaine d'en sortir, parce qu'en 1937, face à l'augmentation du déficit budgétaire, Roosevelt a eu la mauvaise idée de dire on va quand même faire un petit plan d'austérité budgétaire maintenant qu'on a fait de la relance de 1933 à 1937. Oui. Et cette austérité en 1937, qui est parallèle, si vous voulez, disons, à la déflation navale en France, a replongé l'économie américaine dans la déflation, dont elle n'est sortie finalement qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale. Alors, voilà, je reviens donc maintenant sur cette deuxième grande proposition de solution, c'est la création monétaire pour racheter directement les dettes publiques des États. Alors évidemment, ça ne peut pas être une solution structurelle, parce que sinon, c'est-à-dire que les États peuvent s'endetter comme ils veulent, sans limite, puisqu'ils savent que la BCE rachètera systématiquement leurs dettes. Mais à court terme, pour survivre dans les 2 années qui nous viennent, si on ne veut pas que la zone euro explose, c'est quand même une solution qu'il faut pouvoir mettre en œuvre, me semble-t-il. Et là, ça dépend manifestement beaucoup de nos voisins allemands, puisque là, par contre, j'en suis sûr, les Français poussent énormément dans cette direction. Troisième solution, puis je vais passer à mon deuxième point, je suis un peu trop long. Troisième grande solution, c'est celle que peut-être on pourrait être en train de mettre en œuvre, puisqu'elle a fonctionné depuis 15 jours pour le rachat de la dette publique italienne. Vous avez vu que l'Italie s'est refinancée à plus de 7% en décembre, à 6,98-99 tous les mois de janvier, et maintenant est entre 5 et 6. L'Italie a 400 milliards à emprunter cette année, ce qui est énorme. Elle a réussi à en emprunter 30 depuis le début de l'année. Alors tout le monde fait Alléluia, c'est fini, on a sauvé l'Italie, évidemment c'est pas vrai. Il en reste encore 370 à emprunter. D'autant que nous, les Français, nous en avons également 400 à emprunter cette année. Pas parce que nous sommes aussi endettés que l'Italie, mais parce qu'il se trouve que c'est la faute à pas de chance. Nous avons des grosses échéances de dette publique cette année, qui tombent cette année. Voilà. Il n'y a pas pour grand-chose, si vous voulez. Hein. Ni le président actuel, ni l'opposition, c'est pas notre faute, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il va y avoir la queue au guichet sur les marchés d'emprunt européens cette année, puisque l'Italie aura 400 milliards à emprunter, nous aussi. Si vous faites la somme de tout ce que les pays fragiles de la zone euro devront emprunter cette année, ça fait plus de 1000 milliards. Et comme les banques elles-mêmes ont emprunté beaucoup parce qu'elles sont très fragilisées, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, ce n'est pas du tout clair que l'Italie soit sortie d'affaire. Il n'empêche que, il est vrai que le taux auquel elle emprunte depuis 15 jours a beaucoup diminué. Pourquoi ? Ça peut être l'amorce de la troisième solution, qui à mon avis n'est pas la bonne, mais c'est sûr, ça peut donner l'illusion qu'on s'en sortira comme ça, parce que c'est finalement le scénario que la Banque Centrale du Japon a mis en place depuis une dizaine d'années. Vous avez vu que la BCE a prêté 500 milliards aux banques européennes fin décembre, à un taux extrêmement faible, 1% sur 3 ans. Ça n'a jamais fait des prêts aussi, disons, généreux pour les banques. Que font les banques ? Elles prennent cet argent qu'on leur prête à 1% sur 3 ans. Elles l'investissent immédiatement en rachetant de la dette publique, par exemple italienne, à 5% sur 3 ans. Même maturité, même type d'obligation, simplement ce n'est pas le même taux d'intérêt. J'emprunte à 1%, je reprête à 5%. Je fais une marge de 4 en ne prenant aucun risque, apparemment. Donc c'est très intéressant, parce que 4%, vous voyez, 400 points de base, c'est énorme, quoi. Alors, il n'empêche qu'il y a un petit risque, c'est que l'Italie fasse défaut dans les 3 ans. C'est pas complètement, si vous avez compris l'histoire de la boule de neige, c'est quand même pas absolument sûr que l'Italie ne fasse pas défaut dans 3 ans. Alors même ça, en fait, la BCE et les banques ensemble, travaillant ensemble, ont trouvé une parade. Vous savez qu'à chaque fois que la BCE prête de l'argent à des banques, celles-ci doivent mettre un actif en collatéral, c'est-à-dire en hypothèque du prêt. C'est comme vous, lorsque vous allez voir votre banquier, vous empruntez de l'argent pour acheter une maison, vous mettez votre maison en collatéral de l'emprunt que vous faites auprès de la banque. C'est ça exactement le mécanisme des subprimes aux États-Unis. C'est-à-dire que les ménages pauvres de Cleveland empruntaient pour payer une maison qu'ils achetaient, qu'ils plaçaient immédiatement en collatéral de l'emprunt qu'ils venaient de conclure avec leur banquier. Et puis c'est quand la valeur du collatéral s'est effondrée, parce que le marché hypothécaire s'est bien baissé, que les fameux ménages américains pauvres ne pouvaient plus réemprunter pour solder leur dette antérieure, et ont dû céder leur collatéral aux banques, qui ne savaient pas quoi faire de ces maisons, qui elles-mêmes ont fait faillite. Oui. Alors, nos banques européennes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles empruntent les 500 milliards à 1%, elles les reprêtent au moins en partie à l'Italie à 5%, et elles placent la dette publique italienne en collatéral auprès de la BCE. Ce qui veut dire que si dans 3 ans l'Italie n'a pas fait faillite, bah tant mieux, les banques auront réussi à avoir un arbitrage de 4% sur des sommes comme ça, ce qui est gagnant-gagnant pour les banques. Et si l'Italie fait défaut, par exemple si l'Italie prononce, dit voilà, il y a 50% de ma dette que je ne rembourserai pas, et bien dans ce cas-là, la valeur en gros des dettes publiques italiennes va être diminuée par 2, divisée par 2, et les banques pourront dire à la BCE, regardez, voilà, mon collatéral ne vaut plus rien, vous pouvez garder mon collatéral, moi je ne vous rembourse pas le prêt que vous m'avez fait. Oui. Dans ce cas-là, la BCE devient une bad bank européenne, une banque de défaisance, qui récupère les titres pourris de la dette publique italienne, qui a prêté 500 milliards qu'elle ne récupérera jamais. Et ça, tout le monde le sait très bien aujourd'hui. Donc, ce mécanisme-là permet de sécuriser apparemment les banques et les États. Puisque du coup, les banques, on leur prête des sommes pharaoniques, en échange de quoi elles acceptent de prêter un peu plus cher aux États, voire beaucoup plus cher aux États. Elle replace cette dette en collatéral, et si jamais ça se passait mal, si jamais le mécanisme était grippé, les banques, elles, ne feront pas faillite. Par contre, la BCE se retrouvera dans une difficulté, grande difficulté, puisque vous savez que la BCE n'a que 80 milliards de fonds propres, et sauf erreur de ma part, l'été dernier, elle avait plus de 120 milliards de dette publique grecque dans son bilan. Pourquoi ? Parce qu'elle avait même racheté, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le marché secondaire, de la dette publique grecque, et parce qu'elle a récupéré de la dette publique grecque en collatéral. Donc l'été dernier, ça faisait 120 milliards, je ne sais pas combien ça fait aujourd'hui, mais imaginez que la Grèce fasse un défaut de 50%, pardon. Donc elle perd 60 milliards, et il ne restera plus que 20 milliards de fonds propres. Et d'après les traités, si la BCE se retrouve avec zéro fonds propres, ce sont les États de la BCE qui sont chargés de la renflouer, de la recapitaliser. Ce qui est quand même une aberration incroyable, puisque c'est l'Institut de création monétaire. Les États n'ont pas le pouvoir de création monétaire. Oui. Mais j'espère qu'on aura la sagesse de réviser les traités si un jour on en est là. Mais voilà, pour vous dire que ça, ce serait une troisième solution qui aurait comme avantage, pour un certain nombre d'entre nous, de permettre de garder la dragée haute auprès des États, puisque tous les 15 jours, en gros, ces États vont devoir réemprunter auprès des banques, qui elles-mêmes vont emprunter l'argent auprès de la BCE qu'elles prêteront aux États, tout en disant, ah oui, mais attention, il faut quand même être extrêmement vertueux, parce que si vous ne faites pas des grandes plans d'austérité, nous, on ne vous prêtera plus. Vous voyez ? Alors, une fois qu'on a compris que les plans d'austérité ne servent à rien, il faut se dire qu'il faut arrêter ce mécanisme-là. Mais il pourrait être mis en place, et le fait que ça marche pour l'Italie pourrait être une tentation, à mon avis, énorme pour qu'on généralise ça et qu'on industrialise ce procédé sur toute la zone euro, comme ça a laissé le cas aujourd'hui au Japon. Le Japon, comme vous le savez, a plus de 200% de PIB de dette publique, mais l'écrasante majorité de cette dette est détenue par des Japonais, par des banques japonaises, qui se renflouent auprès de la Banque Centrale du Japon dans le mécanisme que je viens de décrire. Évidemment, ça, ça ne permet absolument pas de sortir de la déflation. Avec ça, tout le monde s'enfonce dans la déflation. Les seuls qui sont gagnants sont les banques, qui, elles, continuent de toucher la différence entre 5 et 1% de manière mécanique. Vous voyez ? Voilà, ça, c'est la troisième, alors la quatrième solution, évidemment, qui n'est pas une solution, c'est qu'un pays fasse défaut, ce qui est inévitable pour la Grèce, à mon avis. Peut-être pour l'Italie, vous savez, pour l'Italie, c'est à peu près autour de 7% que se trouve la ligne rouge. Au-delà de 7%, on est sûr qu'elle tombe elle-même dans l'effet boule de neige. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, dans 1 ou 2 ans, elle est dans la situation grecque. En deçà de 7%, c'est moins clair. Mais la Grèce, ça, c'est très clair, elle est déjà dedans. Bon. Donc la grande difficulté de la Grèce, si elle restructurait maintenant, comme vous le savez, donc ce que je viens de dire, c'est le problème des CDS, d'un côté, donc la sphère financière, et puis l'autre problème, c'est que comme elle n'a pas de pouvoir de création monétaire, parce que nous l'avons cédé à la BCE, si la Grèce fait défaut, comme elle était même déjà en déficit public, l'année prochaine, il faut quand même qu'elle paye ses fonctionnaires, l'éclairage public, les hôpitaux, et qu'elle achète du pétrole, ses écoles, accessoirement. Comme elle est en déficit, elle n'a pas l'argent pour le faire. Comme elle ne peut plus l'emprunter, puisqu'elle a fait défaut, une fois qu'un pays a fait défaut, plus personne ne lui prête. Il faudrait être fou pour continuer de prêter à un État qui vient de faire défaut. Hein. Comme plus personne ne lui prête, elle est obligée de faire marcher la planche à billets, ce qu'ont fait tous les pays qui ont fait défaut dans l'histoire, si vous voulez, la Russie en 97, l'Argentine en 2000, etc. Mais elle ne peut pas le faire, parce qu'elle n'a pas de droit de création monétaire au sein de la zone euro. Et c'est la raison pour laquelle elle est contrainte à ce moment-là de sortir de la zone euro pour récupérer le droit de création monétaire en revenant à la drame. Mais la grosse difficulté pour elle, c'est que si elle revient à la drachme, il se peut que la drachme soit dévaluée sur les marchés d'échange à plus de, disons, 50%. C'est à peu près ce que cotent les marchés aujourd'hui. Alors, imaginons que la Grèce fasse un défaut de 50% sur sa dette, sorte de la zone euro, passe à la drachme est dévaluée de 50%, de plus de 50%. À ce moment-là, ça veut dire que le poids de la dette pour la Grèce a augmenté. Oui, parce que l'euro est plus que 2 fois plus cher. Et même si elle a divisé par 2 sa dette, au total, c'est encore plus cher. Et c'est la raison essentielle pour laquelle le gouvernement grec n'ose pas le faire. Sinon, vu ce que vivent les Grecs aujourd'hui, il y a longtemps que la Grèce serait sortie de la zone euro. Oui. Alors, bon, j'en ai fini avec le tableau, le petit 1, petit 2. Les propositions de réforme financière. Donc vous avez vu qu'il y a tout cet aspect marché de gré à gré avec les CDS. Plus généralement, à mon sens, c'est un énorme chapitre de la réglementation financière qu'il faudra mettre en œuvre, c'est mettre ce qu'on appelle des chambres de compensation sur les marchés financiers. Vous avez 2 grandes familles de marchés financiers. Vous avez les marchés financiers qu'on dit compensés, donc dessus vous avez une chambre de compensation qui est une institution qui centralise l'offre et la demande, qui oblige les intervenants à montrer pas de blanc, c'est-à-dire qu'ils sont, qui rend public le volume des transactions, les prix auxquels les transactions sont faites, qui oblige également à standardiser un minimum des produits échangés, parce que vous ne pouvez pas arriver avec la dernière trouvaille du dernier polytechnicien qui travaille dans votre boîte. Si personne ne la comprend, vous ne pouvez pas la vendre par une chambre de compensation. Par contre, sur un marché OTC, là, vous pouvez encore la vendre, parce que ça n'engage que votre contrepartie. Si elle ne comprend rien au produit que vous lui vendez, c'est de sa faute, c'est pas de la vôtre. Donc les chambres de compensation, ça oblige à simplifier le produit. Et puis, surtout, ça a une vertu énorme, c'est que ça prélève une marge, un appel de marge sur les transactions. Donc une petite, si vous voulez, taxe, qui permet de constituer un matelas, qui permet de renflouer l'une des contreparties si jamais quelqu'un faisait défaut sur le marché. Donc quand j'arrive sur un marché compensé, évidemment, j'ai un petit frottement, j'ai une petite friction, il faut que je paye un appel de marge. Je sais que tout le monde le fait. Je sais que si ma contrepartie un jour fait défaut, la chambre de compensation pourrait aller puiser dans ce matelas pour me rembourser. Et pour ça, du coup, j'ai beaucoup moins besoin d'acheter des CDS pour me protéger. Vous voyez ? Alors, il y a plein de marchés qui n'ont pas de chambre de compensation, et Jean-Pierre Jouyet, l'AMF et puis d'autres, plaident en faveur de la compensation du marché non compensé. Vous voyez ? Ça veut dire mettre en place ces institutions de régulation élémentaires sur les marchés financiers, et de préférence sous tutelle publique. Pourquoi sous tutelle publique ? Parce que la directive MIF ou MIFID, qui a été corrigée par la Commission européenne en 2004, qui est entrée en fonction en 2007, autorise aujourd'hui la mise en concurrence des places boursières. Ce qui veut dire que si vous mettez une chambre de compensation sur une place boursière, elle est mise en concurrence avec les autres, et évidemment, pour qu'elle puisse attirer des intervenants, elle va diminuer ses appels de marge, pour que ça coûte moins cher. Elle va dire, venez chez moi, c'est moins cher. Et si elle diminue ses appels de marge, elle diminue d'autant le matelas de sécurité au cas où il y aurait un défaut, et elle dilue complètement le pouvoir d'intérêt systémique de mettre en place une chaîne de compensation. C'est pour ça que vous avez des chambres de compensation aujourd'hui qui, du point de vue de la protection du risque de défaut, ne servent plus à rien. Parce que les appels de marge sont tellement faibles que ça, le mécanisme ne fonctionne plus. Oui. Donc il faut, à mon avis, revenir sur la directive MIF ou MIFIL, qui est d'ailleurs remise en chantier aujourd'hui par la Commission européenne, mais je ne sais pas très bien dans quelle direction ça va avancer. Et, me semble-t-il, mettre en place des chambres de compensation qui ne soient pas complètement soumises au jeu de la concurrence, parce que sinon, ça revient à créer des fausses chambres de compensation. Il y a ensuite l'énorme chantier de tout ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire ce qui s'est développé essentiellement en Europe grâce justement à cette directive MIF. Alors, là-dedans, vous avez donc tous ces marchés opaques sur lesquels on n'échange pas que des CDS, mais sur lesquels, par exemple, on fait du trading à haute fréquence. Vous avez peut-être entendu parler de ça, le HFT. High Frequency Trading. Donc ça, c'est des robots, des automates, avec des logiciels très perfectionnés, qui font des millions d'opérations à la seconde. Hein. Enfin, pas à la seconde, à la minute, disons. Hein. L'unité de temps, c'est la microseconde. Si, ça fait des millions d'opérations par seconde. Alors, vous savez que les banques elles-mêmes essayent d'acheter du terrain près des places boursières pour minimiser le temps de transmission de l'ordre d'achat ou de vente par le fil électrique entre l'endroit où se trouve la salle de marché de la banque et l'endroit où elle est réceptionnée, par exemple, par la chambre de compensation. À quoi sert le HFT? Essentiellement, officiellement, à garantir de la liquidité sur les marchés. Donc le fait que lorsque vous arrivez sur un marché, vous êtes sûr de trouver de l'offre et de la demande. Bon. Et c'est vrai que c'est important d'avoir de la liquidité sur un marché. Si j'arrive avec un Rembrandt, je vais mettre 6 mois pour le vendre. Donc le marché du Rembrandt est très peu liquide. Hein, si j'ai un billet de 100 euros, je vais acheter ce que je veux tout de suite avec, donc c'est parfaitement liquide. Et vous voyez bien qu'entre les deux, vous avez un continuum. Bon, et c'est sûr qu'un marché doit être plus liquide, plus il est efficace, enfin, plus moins il est inefficace en tout cas. La question que je pose, moi, c'est est-ce que les institutions qui sont chargées de garantir la liquidité, ce qu'on appelle les market makers, pour ceux qui connaissent sur les marchés financiers, et le HFT, est-ce que ça garantit la liquidité? Réponse, à mon avis, non, pas du tout. On a vu ça en 2008. Alors en 2008, le HFT n'était pas encore très développé, en fait, heureusement. Parce qu'en 2008, comme vous savez, on a eu un grand crash financier. Et là, vous avez plein de marchés qui ont été complètement asséchés. Tous les investisseurs se sont retirés quand ils ont vu que ça s'effondrait. Les seuls qui ont garanti la liquidité dans ce cas-là, c'était les banques centrales, qui ont réinjecté de la monnaie sur ces marchés pour permettre à ces marchés d'éviter le coma. Donc les seules institutions qui garantissent la liquidité par mauvais temps, c'est les banques centrales. Les autres garantissent la liquidité tant qu'il fait beau. Vous voyez, c'est comme si vous achetiez un parapluie qui ne s'ouvre que quand il fait soleil. Oui. Bon, c'est relativement utile, mais en fait assez peu, quand même. Oui. Bon, là je dis ça sous forme de boutade, vous imaginez que les débats sont extrêmement techniques sur ces affaires-là. Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a sûrement des financiers dans la salle. Une partie de la technicité de ces débats, à mon avis, sert essentiellement à faire en sorte que le grand public ne puisse pas s'en emparer, parce que c'est trop technique. Ça ne peut pas être porté sur la place publique, parce que c'est très facile d'écarter les contradicteurs en disant « Vous n'y connaissez rien, mon Dieu, vous n'avez pas fait l'école polytechnique, donc ce n'est pas la peine. Oui. » Après, il y a un autre sujet énorme, qui est celui du secteur bancaire, qui est comment réguler aujourd'hui le secteur bancaire. Alors d'abord, pourquoi faudrait-il le réguler? Mon diagnostic, c'est que les banques vont très mal, contrairement à ce qu'ils disent. Et d'une certaine manière, c'est normal qu'elles ne disent pas qu'elles vont mal, puisqu'une banque ne peut jamais dire qu'elle va mal. Comme vous savez, une banque, qu'est-ce que ça fait? Ça prête beaucoup plus d'argent que ça n'en possède, par définition. Donc une banque ne fonctionne que si tout le monde a confiance et que vous n'avez pas de course au guichet, c'est-à-dire que tout le monde ne vient pas simultanément récupérer l'argent qu'il a mis en dépôt dans la banque. Parce que dès que vous faites ça, la banque est en faillite. Donc l'activité d'une banque, c'est d'inspirer la confiance pour pouvoir accorder des crédits. Et c'est fondamental, il faut le faire. Et donc un banquier, structurellement, ne peut jamais vous dire qu'il va mal. Il empêche, à mon sens, que la plupart des banques européennes vont très mal. Le marché interbancaire, c'est-à-dire qu'il y a le marché sur lequel les banques se prêtent entre elles, est complètement, lui-même en léthargie depuis 3 ans. Et la seule institution qui le nourrit, c'est la Banque Centrale, le nouveau, la BCE, qui permet à ce marché de rester liquide, une fois de plus. Ça veut dire que les banques elles-mêmes ne se prêtent plus entre elles. Pourquoi est-ce qu'elles ne se prêtent plus? Parce qu'elles savent très bien qu'en réalité, elles vont toutes très mal. Et c'est un jeu du poker menteur, c'est-à-dire chacun sait qu'il a des très mauvaises cartes, mais il dit à son adversaire, non, je t'assure, moi, j'ai plein d'as, donc tu peux y aller. Sauf que l'autre en face, comme il est banquier aussi, il est plus difficile à tromper que, disons, la municipalité de Saint-Étienne, donc avant de prêter, il réfléchit deux fois. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, il ne se prête plus entre nous. Alors, une autre raison pour laquelle les banques vont plus mal qu'elles ne veulent bien le reconnaître aujourd'hui, c'est qu'elles bénéficient d'exemptions comptables qui sont un sujet technique, mais assez fondamental, et comme on a l'MCC, je vais quand même en parler. Vous savez que depuis 2005, en Europe, nous avons adopté les normes comptables internationales, les normes IFRS ou IAS, qui ont comme grande philosophie le fait qu'une entreprise cotée, par exemple une banque, doit valoriser à sa valeur de marché, la fair value, le mark to market, les actifs dans son bilan. Donc ça veut dire qu'en 2008, les banques avaient à leur bilan un état d'actifs toxiques, des actifs pourris, subprime, les CDO, etc., et que ces actifs ne valaient plus rien sur les marchés. Mais n'empêche qu'à cause de ces normes comptables internationales, elles étaient obligées de les valoriser à leur valeur de marché qui était zéro, ou proche de zéro. Et c'est ça qui a creusé des trous noirs dans les bilans des banques en 2008. C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles la totalité des grandes banques européennes étaient toutes en faillite au 31 décembre 2008. Ils ont dû leur survivre au sauvetage des États, y compris en France. C'est vrai que nous, on n'a pas prêté beaucoup d'euros à nos banques, on aurait quand même prêté. Si on n'aurait pas prêté 18,5 milliards, elles étaient toutes en faillite au 31 décembre 2008. Alors, en décembre 2008, elles sont toutes allées faire un pèlerinage à Londres pour admirer les reflets de la Tamise, mais aussi pour aller discuter avec l'IASB, qui est l'institution privée, qui est chargée, par délégation de la Commission européenne, de concocter les normes internationales comptables. Donc, c'est intéressant à comprendre. L'Union européenne a délégué à un institut privé la tâche d'édicter les normes comptables. Ce qui est quand même, disons, là, pour le coup, un dessaisissement de souveraineté politique extrêmement fort. Évidemment, quand je dis ça, et en face, il y a des, par exemple des membres de la Commission européenne qui sont là, qui disent « Non, mais Gaël, tu exagères. » Il y a quand même aussi des représentants des autorités des marchés financiers à l'IASB, c'est cette institution. Mais la question, vous savez bien, le nerf de la guerre, c'est qui paye l'IASB et les banques. Donc même si vous mettez Jean-Pierre Jouyet pour faire beau dans le décor, qui vient assister aux réunions, comme c'est pas lui qui paye, c'est pas lui qui a le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est les agences de notation, les boîtes de conseil, les boîtes de consulting et les banques, à l'IASB. Donc les banques sont allées faire leur pèlerinage auprès de la Tamise décembre 2008 et ont supplié l'IASB de les délivrer du carcan de ces normes pour qu'elles ne soient pas obligées de valoriser à leur valeur de marché ces actifs pourris dans leur bilan fin 2008. Et l'IASB leur a donné un régime d'exception comptable provisoire qui leur permet de mettre des valeurs théoriques sur ces actifs pourris, des valeurs calculées par des modèles de maths, ce que j'ai fait moi-même avant de devenir jésuite, et ce que font des corps de polytechniciens quand ils vont faire de la finance. Et aucun expert comptable ne peut challenger ces valeurs-là, parce que c'est des modèles de maths beaucoup trop compliqués. Ils n'ont pas le temps, quand ils auditent les comptes d'une banque, même s'ils avaient les capacités techniques de le faire. D'abord, la plupart du temps, ils ne les ont pas, parce qu'ils n'ont pas Félix. Ensuite, ils n'ont pas le temps. Donc, ils ne peuvent pas. Et donc, c'est comme ça que, par miracle, du 31 décembre 2008 au 1er janvier 2009, les actifs pourris sont passés de zéro à quelque chose de strictement positif, assez élevé, qui a permis aux banques de se renflouer. C'est pour ça qu'un certain nombre de banques étaient en faillite au 31 décembre 2008 et avaient de nouveau des profits au deuxième semestre 2009. C'est quand même surprenant. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'entreprises qui arrivent à passer de la faillite à des profits substantiels en 6 mois. Moi, je n'en connais pas beaucoup. Et chose intéressante, le même régime d'exception vient de leur être accordé en décembre dernier pour les dettes publiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau comptable, les dettes publiques ont le même statut que les actifs pourris toxiques subprime en 2008, c'est-à-dire qu'elles sont tellement dangereuses et mauvaises, et elles risquent tellement de creuser des trous dans les bilans des banques, que les banques ont déjà obtenu à l'avance de l'IASB un nouveau régime d'exception comptable qui leur permet de ne pas valoriser les dettes publiques européennes à leur valeur de marché, qui pourrait devenir nulle assez vite, mais à des valeurs théoriques, calculées avec des modèles de maths. Vous voyez ? Alors, donc ça c'est pour dire pourquoi les banques ne vont pas si bien que ça. Alors maintenant, j'ai bien conscience du fait que s'il y a des banquiers parmi vous, c'est pas du tout une attaque contre les banquiers. Hein. Mes amis banquiers avec lesquels je discute ont raison quand ils disent « Mais Gaël, nous ne sommes pas les pires ». Et c'est vrai. Les institutions financières qui bossent dans le shadow banking, donc les hedge funds en particulier, sont encore bien pires que les banques. Parce que, par exemple, on jouait explicitement à spéculer sur la dette grecque en achetant des CDS et n'attendent qu'une chose, c'est que la Grèce fasse défaut. Bon. Simplement, quand même, il faut dire aussi que ces fameux fonds spéculatifs, hedge funds, n'auraient pas pu se développer sans l'aide des banques. Ça, on doit la vérité quand même de le dire aussi. C'est-à-dire, ce sont des émanations des banques. Pourquoi est-ce que ce sont des émanations des banques? Parce que les banques sont quand même tenues par un minimum de règles qu'elles doivent respecter. Il y a des ratios de fonds propres, de réserves obligatoires que les banques doivent respecter pour accorder des crédits. Règles auxquelles les fonds spéculatifs ne sont pas soumis. Les hedge funds ne sont pas soumis. Alors quand vous êtes un jeune trader dans une banque et que vous avez envie de multiplier par 10 votre bonus à la fin de l'année, qu'est-ce que vous faites? Vous faites embaucher par votre ancien patron de salle qui vient de créer son hedge fund personnel à Londres et qui vous prend et qui vous promet 10 fois plus de bonus que ce que vous gagnez dans la banque traditionnelle. Mais évidemment, les pratiques sont encore plus sauvages que ce qu'on fait dans des banques classiques. Donc, mes amis banquiers cathos, d'ailleurs, qui me disent « Gaël, c'est pas nous les gros méchants », ils ont en partie raison, mais en même temps, les gros méchants aujourd'hui n'existeraient pas sans les banques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour réglementer le secteur bancaire? Vous avez peut-être vu que le Conseil Justice et Paix, le Conseil Pontifical Justice et Paix, a sorti une déclaration qui a fait grand bruit en décembre, préconisant deux choses. La séparation des métiers bancaires, vous séparez le métier de banque de crédit, de banque d'investissement, disons, de banque de dépôt, et l'instauration d'une taxe Tobin sur les transactions financières. Je ne dis rien sur les taxes Tobin parce qu'évidemment je suis pour, et aujourd'hui quasiment tout le monde est pour sauf la Grande-Bretagne. Donc j'espère que cette question-là va avancer. Vous savez que notre président a pris position là-dessus de manière extrêmement ferme. Je ne peux que m'en réjouir. Le problème, c'est que vous savez, si on est tout seul pour la mettre en œuvre, ce ne sera pas très utile. Mais les Allemands ont dit aussi qu'ils étaient pour, donc j'espère qu'on va avancer. Je reviens juste sur la question de la séparation des métiers bancaires. Je pense aussi, comme le Conseil Justice et Paix, dont en fait, vous savez peut-être que la déclaration a été rédigée par deux Français, Michel Cordeschu et un jésuite français, c'est pas moi, mais un autre, vous en doutez. Si vous connaissez un petit peu la compagnie, vous savez quel est l'autre jésuite qui peut avoir écrit avec Michel Cordeschu. Donc c'est une très bonne déclaration. Simplement, il y a évidemment un énorme débat sur la préconisation qui est la séparation des métiers bancaires. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que ça oblige, enfin, ça permet de sécuriser les dépôts des petits épargnants que nous sommes tous. Parce que le jour où BNP Paribas, si un jour ça devait arriver, se retrouve en faillite, c'est phénoménal ce qui va se passer. Vous savez que le bilan de BNP Paribas est aussi gros que le PIB français. Hein, c'est 2000 milliards. Donc Michel Pébro peut regarder Nicolas Sarkozy de haut. En Europe, aujourd'hui, il pèse aussi lourd que Nicolas Sarkozy. Et donc c'est pas un hasard si les quatre personnes qui étaient réunies au chevet de la Grèce le 26 octobre dernier pour négocier les conditions de restructuration de la dette grecque, c'était Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Michel Pébro et Joseph Ackermann, qui est l'interrégo de Michel Pébro pour la Deutsche Bank en Allemagne. Donc aujourd'hui, les banquiers européens discutent d'égal à égal avec les présidents et les premiers ministres des États les plus gros en Europe. Alors, c'est fondamental parce que ça permet de sécuriser la partie banque de dépôt, c'est-à-dire nos dépôts, qui, comme vous le savez, ne sont sécurisés qu'à hauteur de 100 000 euros par personne et par compte par l'État. N'empêche que, alors, sur cette question, la Grande-Bretagne est plus avancée que nous, ce qui est un paradoxe, et voilà. Et nous, c'est surtout les banques françaises qui sont contre. Et pour ne pas la nommer, notre ami BNP Paribas. Non, mais c'est notre ami au sens où, enfin, c'est un peu ironique, mais en même temps, j'ai aussi des amis qui travaillent à BNP Paribas, il y a des gens très bien qui travaillent à BNP Paribas, vous voyez. C'est un gros paquebot, et on peut pas, je pense que, il faut résister à la tentation de diaboliser BNP Paribas. Surtout que ça n'est quand même pas Goldman Sachs. Pourquoi est-ce que les banques françaises sont contre? Parce que les banques françaises sont construites aujourd'hui sur le modèle de la banque universelle, qui mélange, donc, banque d'investissement et banque de dépôt. Si aujourd'hui vous coupez en deux BNP Paribas, et vous la faites revenir en gros à l'état où elle était il y a 15 ans, vous aviez Paribas, qui était une petite banque d'investissement, un petit joyau, c'est sûr, hyper technologisé, mais tout petit. Et vous aviez BNP, qui était une énorme banque de dépôt. Vous revenez en fait à cette situation-là, et Paribas, disons la partie la banque d'investissement, ne peut plus jouer du tout dans la cour des grandes au niveau mondial en tant que banque d'investissement. Or en face, vous avez une banque comme Goldman Sachs, qui elle est une pure banque d'investissement. Donc Goldman, vous restituez et vous remettez en œuvre le Banking Act, le Glass-Steagall Act de 1933, mis en place par Roosevelt en 1933, qui séparait les métiers bancaires. Goldman vous dira même pas mal. Moi, je suis une banque d'investissement déjà. Et en fait, en 1933, historiquement, on sait que Roosevelt a été conseillé par un financier de Goldman parce que la séparation des métiers bancaires permettait d'éliminer un certain nombre de concurrents de Goldman. Oui. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi l'Angleterre est pour. L'Angleterre avance dans la séparation, parce que l'Angleterre a un certain nombre de banques d'investissement britanniques que cette question n'embêtera pas du tout, mais qui au contraire sont trop avantageux, ça permettra d'éliminer les concurrents qui sont des banques mixtes. Et nous, en France, nous n'avons que des banques mixtes, dans les grosses banques. Donc évidemment, pour nous, c'est beaucoup plus problématique. La question qu'il faut poser quand même, c'est avons-nous besoin de grosses banques d'investissement? Vous voyez? Si Paribas revient à la taille qui était la sienne au début des années 90, est-ce que c'est si dramatique que ça? Pour le financement de l'économie réelle, pour ce qui est d'aller jouer au casino sur les marchés financiers, ça c'est une autre affaire, mais pour le financement de l'économie réelle, moi je ne crois pas. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est une bonne option qu'a prise le Conseil de justice et paix en prenant position, de manière très ferme, en faveur de la séparation des métiers. Ok. J'en arrive à mon troisième point, qui est pourquoi ça bloque. Je dirais qu'il y a, alors, il y a deux grands régimes d'explication. Un régime d'explication qui est, disons, on pourrait dire conjoncturel, quoi, qui est, je crois que, si vous voulez, un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées dans des positions de prise de pouvoir, de décision, ont été complètement dépassées par ce qui se passait sur les marchés financiers. Les chrétiens, si vous voulez, qui ont travaillé à la Commission européenne, qui sont des hauts fonctionnaires, qui croient au projet européen, de manière, avec beaucoup de justesse, qui se sont engagés, par exemple, du côté de Jacques Delors, ils n'étaient pas formés pour comprendre ce qui se passait sur les marchés financiers. Parce qu'on n'apprend pas ça à l'ENA, par exemple, encore aujourd'hui. Vous voyez bien, c'est tout simple, c'est une question de parcours professionnel clair. La quasi-totalité des hauts fonctionnaires français qui travaillent à la Commission européenne, pour la plupart, ont fait l'ENA, un grand corps français, ils n'ont jamais travaillé dans les banques. Ils ne savent pas ce qui se passe sur les marchés financiers. Et on n'apprend pas ça à l'ENA, je peux vous le garantir. Du coup, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des décisions à prendre du type voter la directive MIF, directive catastrophique? Ils vont voir leurs amis qui étaient eux-mêmes à l'ENA, mais qui ont pantouflé du côté de la banque. Et qui sont eux-mêmes des cathos, ils vont à la messe avec eux dimanche. Voilà. Et ils leur font confiance. Simplement, eux, par contre, à mon avis, portent une énorme part de responsabilité parce que eux ont dit à nos amis fonctionnaires, aux fonctionnaires européens, allez-y, vous pouvez faire confiance, les marchés financiers, c'est vraiment efficace, c'est utile, ça permet d'apporter de la liquidité, ça permet d'apporter du crédit au monde réel, et c'est ça qui apportera la prospérité à l'Union européenne. Alors eux ont une part de responsabilité, non. Oui. Ceux qui étaient en face, les ont cru, n'avaient pas tellement les moyens, le temps, la disponibilité, ils ne peuvent pas potasser les bouquins de valorisation des actifs financiers, c'est pas possible pour eux, c'est beaucoup trop compliqué. D'ailleurs, au passage, une partie des banquiers eux-mêmes sont dépassés par ce qui se passe sur les marchés financiers. Les seniors banquiers qui ont plus de 60 ans aujourd'hui, quand ils étaient étudiants, ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés n'existait pas. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils donnent des bonus terrifiants à leurs traders, c'est qu'ils disent, bon, ils prient pour que les traders arrivent à faire des opérations qui gagnent beaucoup d'argent, mais pour une partie d'entre eux, ils ne savent pas pourquoi on gagne beaucoup d'argent sur les marchés financiers. Alors je peux vous dire moi-même, j'ai assisté à des discussions absolument ubuesques. À l'époque, j'étais donc quoi, c'est-à-dire le gars qui fait les calculs, vous savez, pour les traders, avant de devenir Jésus. Oui, c'était un. Et donc, j'ai assisté à une réunion où il y avait les numéros 2, 3 et 4 de la banque d'investissement française pour laquelle je travaillais, dont je ne donnerai pas le nom, avec donc le responsable du département recherche et développement de cette banque. Nous devions présenter des nouvelles stratégies hyper sophistiquées qui étaient censées faire gagner beaucoup d'argent et raser gratuitement tout le monde. Nous avons eu une discussion dans les grands appartements hyper luxueux du dernier étage de cette grande banque parisienne. Et moi, j'étais chargé d'appuyer sur Enter, sur l'ordinateur, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle diapo qui apparaissait sur le mur. Et le numéro 3 de la banque était assis à côté de moi, et il avait mis ses deux chaussures sur la table à 30 cm de moi. Vous voyez, sur la table. Pour bien montrer dans quelle estime il accordait, disons, aux gens qui venaient lui parler, parce que quand même, c'est le numéro 3 de la banque. Et en fait, les trois personnes qui étaient là ne comprenaient strictement rien à ce que nous leur disions. Mais vraiment rien. Mais personne n'osait le montrer, alors il y en a un qui disait « Oui, alors, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait faire ci ?» À ce moment-là, le responsable de la recherche et développement, ou moi-même, nous répondions, alors qu'il n'avait rien compris, « Oui, c'est pas, tu as raison, c'est pas inintéressant, mais moi j'aurais dit des choses comme ça. » À ce moment-là, l'autre en face disait « Zut, il a compris, il faut que j'aie le sentiment que j'ai compris moi aussi. » On posait aussi une question qui était complètement hors sujet, et nous continuions de répondre « Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Alors peut-être qu'on pourrait dire des choses comme ci, oui. » Alors après ça, j'ai arrêté complètement, je suis sorti de cette réunion absolument écœuré, mais ça, c'est révélateur, si vous voulez, du fait que ceux qui sont dans les prises de position dans les grandes banques ne maîtrisent pas le détail de ce qui se passe sur les marchés financiers. Et d'une certaine manière, c'est normal. Ils n'ont pas le temps d'aller potasser ce qui s'est inventé dans les 10 dernières années, la nuit, parce qu'ils travaillent déjà beaucoup, pour la plupart en tout cas, c'est pas possible. Oui. Voilà. Et donc, a fortiori, nos hauts fonctionnaires de la Commission européenne, les hauts fonctionnaires du Trésor en France, la plupart, sauf ceux qui ont travaillé spécifiquement sur les marchés financiers, maîtrisent mal ces affaires-là et sont obligés de faire confiance. Alors, j'ai fait une table ronde avec Jean-Louis Bourlange, il n'y a pas très longtemps, au Centre Sèvres, qui est un député européen, centriste, modèle. Et Jean-Louis, à mon avis, a reconnu ça de manière extrêmement honnête. Il a dit, vous ne mesurez pas à quel point, à la fin des années 90, début des années 2000, nous, députés européens, nous étions intellectuellement dominés par la financière de la City, qui venait nous voir en costard-cravate et qui nous racontait avec un mépris souverain ce que nous avions à faire. Et nous, députés européens, on n'y comprenait rien. Donc on a voté des trucs en faisant confiance. Oui. Et si vous réfléchissez un tout petit peu, la construction de la zone euro elle-même est quand même tellement favorable aux banques que j'ai du mal à penser que nos amis qui l'ont concocté n'ont pas fait ça un peu sous la dictée de leurs copains banquiers. Parce que comme vous voyez, qu'on voit qu'aujourd'hui tout est fait pour que l'argent qui circule passe forcément par la case banque, et que ce sont les seules institutions qui aujourd'hui peuvent disons, gagner de l'argent grâce, disons, aux traités européens, et ce sont les seuls maintenant qui bloquent pour qu'on révise ces traités parce qu'elles ne veulent pas perdre leur monopole, vous dites quand même, il y a quelque chose qui s'est passé là. Oui. Par exemple, depuis 2004 en France, un particulier français n'a plus le droit d'ouvrir un compte auprès du Trésor français. Donc, nous autres, si nous voulions aujourd'hui venir en aide à l'État français pour prêter de l'argent à l'État français en achetant des bons du Trésor français, nous n'aurions pas le droit de le faire. Depuis 2004, nous n'avons plus le droit de le faire. Qui a le droit de le faire? Seules les banques. Il faut repasser par un banquier qui va prendre notre argent, prélever une marge et prêter à l'État français pour qu'on puisse nous-mêmes prêter à l'État français. Alors vous savez qu'il y a des initiatives qui ont été prises comme ça en Italie. Donc vous avez plus d'un milliard qui a été levé en Italie par les particuliers italiens qui veulent sauver leur pays. En France, c'est pas possible. Il faut passer par la case banque. C'est quand même assez surprenant. Oui. Bon, ça c'est tout un premier régime d'explication, à mon avis, qui est conjoncturel, sur lequel il faut revenir. Ça suppose de mieux former nos fonctionnaires, de mieux former, genre, par exemple, l'autorité des marchés financiers essaie de le faire aujourd'hui. Bercy a demandé à l'AMF, il y a deux ans, trois ans maintenant, Bercy a demandé en fait à l'origine à l'inspection générale des finances, donc la crème des énarques français, de leur faire des rapports pour des idées en vue de la réglementation du marché financier. Il y a aussi moi, l'IGF, l'inspection générale des finances, a rendu feuille blanche en disant on n'est pas capable de faire ça. C'est pas à nous qu'il faut demander ça. Du coup, Bercy s'est tourné vers l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour lui demander de faire ce travail. Et l'AMF a dit nous on veut bien, mais il faut nous donner de l'argent pour recruter les techniciens qui travaillent sur les marchés financiers, les ingénieurs, pour nous aider à concocter la réglementation intelligente. Oui. Et alors, autre exemple d'initiative tout à fait heureuse dans cette direction, vous avez un LABEX, donc un laboratoire d'excellence, financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, qui s'appelle le LABEX REFI, régulation financière, qui vient d'être labellisé par les instances à qui on demande de labelliser ce genre de labo, qui est piloté à la fois par l'ESCP, Paris 1, l'ENA, le CNAM, l'ENAS. Je suis dedans, je suis dans le conseil scientifique de ce LABEX, pour, du côté universitaire, faire des propositions intelligentes de régulation du marché financier. Donc il y a des choses qui se font, vous voyez, on avance petit à petit. D'ailleurs, vous comprenez bien que le chantier est tellement énorme que ça va nous prendre 10 ans. Hein. Donc, bon. Après, il y a un deuxième élément de l'explication, et je vais m'arrêter là, qui est, à mon avis, plus profond et beaucoup plus problématique. Alors, je vais me livrer un tout petit test avec vous. Selon vous, quel est le pourcentage de Français aujourd'hui titulaires du baccalauréat général? Alors, je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas 80%, hein, parce que 80% c'est le taux de réussite au bac. Alors en plus, c'est celui qui est visé, c'est pas exactement celui qui est atteint, on est un peu en dessous, et puis qui plus est, tout le monde n'arrive pas au baccalauréat, général. 50-55, 40-45, 50. Bon. 30, bon. Évidemment, si je vous pose la question, voilà. Donc la réponse c'est 28. Pour le baccalauréat général, si vous additionnez, général, attention, hein, si vous additionnez avec le bac pro et le bac technique, on arrive à 55, ce qui était la réponse. Simplement, vous voyez que ça veut dire qu'il y a un tiers des Français qui ont un bac général, qui accèdent à des études universitaires, donc un tout petit peu du côté des bacs pro et techniques, mais pas beaucoup. Donc ça veut dire que, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en général, donc là vous avez particulièrement bien répondu, c'est le MCC, donc c'est normal, mais en général, quand je pose la question, j'ai toujours comme réponse 60, 70, 80. Nous autres qui avons fait des études supérieures, ce qui est évidemment le cas de tout le monde ici, nous croyons que nous constituons la majorité du corps social français. En tout cas, beaucoup d'entre nous. Et je peux témoigner que dans ma propre communauté jésuite, sans révéler de secret, j'ai fait le test à table. Évidemment, tout le monde m'a dit « Mais Gaël, 70 ». Et quand j'ai dit que c'était 28, je me suis entendu répondre « Mais Gaël, mais où sont les autres ?» Vous voyez ? De la part d'un jésuite, très bien. Hein, c'est pas... Ce qui veut dire que nous-mêmes, comme religieux, nous ne rencontrons que des gens du premier tiers. Et ça, c'est un phénomène nouveau, disons, depuis 15 ans. Le premier tiers ne rencontre que des gens du premier tiers. Alors, vous pouvez faire l'exercice pour vous. Quand est-ce que vous discutez, que vous travaillez, que vous vivez avec des personnes en France qui n'ont pas fait d'études supérieures? Alors, moi, j'ai fait l'exercice pour moi, mais c'est pas très souvent. Vous voyez? Et c'est même quasiment jamais. Autrement dit, et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que, il y a 20 ans, même, bon, il y a 30 ans, et même encore 20 ans, l'élite, en gros, du pays, qui avait accès aux études supérieures, était ultra minoritaire. Un tiers, finalement, c'est beaucoup. Et c'est la première fois qu'il y a autant de personnes qui accèdent aux études supérieures dans un pays occidental. Ça vaut pour la France, l'Allemagne, l'Espagne, en gros, toute l'Europe de l'Ouest. Un tiers, au fond, c'est énorme. Ce qui fait que cette portion-là de la population, cette élite-là, peut vivre dans une quasi-endogamie complète. C'est-à-dire qu'on ne se marie qu'avec des gens qui ont fait des études supérieures. Le dimanche à table, on ne rencontre que des gens qui ont fait des études supérieures. Nos enfants en font, ma belle-sœur en a fait, mon cousin en fait, etc. Oui. Et donc, il y a un clivage social très très fort entre le tiers éduqué supérieur et les deux tiers de la France qui, eux, n'ont pas eu la chance d'accéder aux études supérieures. Et ce clivage-là, à mon avis, est en partie, alors en plus, ces statistiques sont stagnantes depuis 1995 à peu près. Le taux de bacheliers généraux est stable depuis 1995, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle angoisse qui monte maintenant du côté de cette élite, qui est, est-ce que mes enfants vont aussi réussir à avoir des études supérieures, aussi bonnes que les miennes? Parce qu'on est de plus en plus nombreux, mais le taux de réussite ne marche plus. L'ascenseur social ne marche plus du tout. Et puis, surtout, la question, c'est, le tiers supérieur éduqué n'entend plus les questions que se posent les deux autres tiers. D'où cette énorme difficulté qu'il y a pour la classe politique française à dialoguer avec les deux tiers du corps social. Et quand vous regardez les résultats, par exemple, du référendum au traité constitutionnel de 2005, vous voyez que le non recouvre en grande partie les deux tiers qui n'ont pas fait des études supérieures. Tandis que le oui recouvre en grande partie, pas complètement, hein, c'est pas absolument identique, mais recouvre en grande partie le tiers éduqué supérieur. Et d'ailleurs, si vous en souvenez, les débats qu'on a eus en 2005, c'était pas vous êtes contre, je suis pour, et vous avez le droit, qu'est-ce que nous sommes dans un débat pluraliste, c'est vous êtes contre, je vais vous expliquer. Si vous en souvenez. Autrement dit, vous n'avez pas tout compris, mais moi j'ai fait des études, je vais vous expliquer qu'en fait il faut voter oui pour le traité constitutionnel. Et les questions qui tournent aujourd'hui autour du vote pour Marine Le Pen, elles sont du même ordre. Quand vous regardez la classe politique française, c'est assez difficile d'entendre des politiques qui ne parlent pas seulement au tiers éduqué supérieur. Et en gros, la seule qui le fait, c'est Marine Le Pen, malheureusement. Vous voyez ? Qui se fait simplement l'écho des souffrances sociales vécues par les deux autres tiers de la France, qui ne se reconnaissent plus du tout dans le discours tenu par ce que certains appellent l'UMPS, c'est-à-dire aussi bien l'UMP que le PS. Oui. Alors, ça, outre les débats politiques, je crois que c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'on n'entend parler que du tiers éduqué supérieur, les médias sont occupés, sont tenus par ce tiers éduqué supérieur, ce tiers-là tient évidemment le fort politique, économique, financier, et les deux autres tiers ont le sentiment terrible d'être complètement laissés pour compte. Alors, ça, c'est une vraie difficulté. Quand je discute avec toutes les personnes que j'ai nommées tout à l'heure, des hauts fonctionnaires européens, des députés français, des banquiers évidemment, des financiers, des politiques, ils font tous partie du tiers éduqué supérieur et la plupart n'ont aucune idée de ce que vivent les deux autres tiers. Alors, là, je crois qu'il y a un vrai enjeu, disons humain, spirituel, social, politique pour nous, parce que pour une école chrétienne, on ne peut pas s'en satisfaire. Hein? On sait, nous, que le lien social, c'est fragile, et que si ça ne passe pas par le dialogue des différentes parties prenantes du corps social, on comprendra une explosion qui peut prendre mille formes. Voilà, je vais m'arrêter ici. Place aux questions.
Gaël, un grand merci. Je pense que malgré la rapidité de l'élocution, je pense que quand même beaucoup de choses étaient décrites de façon très, très claire et très pédagogique, même si, comme Gaël a laissé entendre une fois ou l'autre, les discours là-dessus sont quelquefois très compliqués pour justement empêcher qu'on y fasse la clarté. Xavier. Tu nous
fait écho, Gaël, d'une rencontre lorsque tu es, avant d'être jésuite, sur un peu les attitudes qui étaient tenues et comment vous pouviez conduire des discussions par rapport à d'autres qui étaient complètement... avant le déjeuner, tu disais que je te renvoyais sur aussi la rencontre que tu avais eue avec un banquier qui était frappant de cynisme justement par rapport à la situation actuelle, cherchant justement où les plus petits ou les plus faibles tombent. Et tu m'as laissé entendre qu'il y avait une suite à cette rencontre.
Oui, alors je peux rappeler ça rapidement. J'étais déjà jésuite à ce moment-là, juste après la publication en fait, de la première édition de ce livre, les 20 propositions, qui est sorti au tout début de l'année 2009. Alors j'en profite pour dire tout de suite, avant d'oublier, que la troisième édition va sortir le 1er février en poche. Ça coûte 11 € et la moitié du livre a été réécrite pour tenir compte de ce qui s'est passé depuis 2009. Donc même si vous avez la première édition, ce qui est déjà très bien, vous pouvez quand même acheter la troisième. La quatrième, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, quand la première édition est sortie, j'ai été invité par un banquier donc très haut placé dans les 10 premiers numéros d'une grande banque française parisienne, dans le arrondissement, près du siège social de cette banque, je vous permets de localiser, dans un restaurant très chic, pour m'expliquer ce que tu viens de dire, Xavier, à savoir, mon père n'avait vraiment rien compris, parce que les crises comme celle de 2008, c'est excellent, ça permet d'éliminer les plus faibles et les plus fragiles. Et ça rend nos sociétés plus fortes et plus efficaces. Et cet homme-là, outre sa fonction professionnelle, il est dans une communauté CVX, il a fait la licence de théologie à la Cato, il va à la messe tous les dimanches. Hein, vous voyez ? Donc il a tous les stempels, si je puis dire, du catholique ignatien, la compénétrée de sa communauté CVX est un jésuite que je connais, etc. Alors, la suite, c'est que j'ai donné un cours au Centre Sèvres cette année sur quelles leçons peut-on tirer de la crise. Et ce monsieur a tenu absolument à suivre mon cours. C'est quand même surprenant, mais c'est un énarque triomphant qui a fait une magnifique carrière à la banque, il n'a vraiment pas besoin d'aller suivre mon cours. Enfin, il y a tenu absolument. On ne peut pas l'en empêcher, il a payé son inscription. Il est venu, il s'est installé au fond de cours à toutes les séances. J'ai vu qu'il notait tout. Bon. Et puis à chaque fois que je disais quelque chose qui pourrait être désagréable pour les banques, il levait la main pour dire non, je ne suis pas du tout d'accord. Du coup, je le laissais donner son opinion. Et puis, très vite, j'ai arrêté de dialoguer avec lui parce que c'est un dialogue de sourds, extrêmement dur. Et puis, ça ralentissait tout. Voilà. Donc, au bout d'un moment, c'était devenu notre banquier de service qui défend sa cause. Et puis, à la dernière séance, il a vu absolument, donc il m'a envoyé des mails en disant « Gaël, je veux absolument pouvoir intervenir. Votre cours est remarquable, mais quand même, j'ai pas du tout le même point de vue que vous. Vous devez, à la vérité, de me laisser parler. » Un quart d'heure. Alors j'ai accepté, un quart d'heure. Au passage, je pense que, vous voyez, j'ai bien réfléchi avant de donner la parole, et je crois que c'est fondamental pour nous, chrétiens, ça fait partie, disons, de la position de chrétien, de croire qu'on peut avancer à travers le dialogue. Parce que j'aurais pu dire aussi, c'est moi qui donne cours, c'est pas vous, primo, etc. Bon. Donc j'ai fait confiance, j'ai accepté. Donc il est venu, et pendant un quart d'heure, il nous a dit ceci. Je résume en deux phrases. Jamais les banques n'ont aussi bien travaillé qu'aujourd'hui. Et ensuite, c'est vrai que la France va mal, mais il y a trois solutions. La première, c'est vous diminuez les salaires des fonctionnaires. Deuxième, vous désindexez les retraites de l'inflation. Et la troisième, vous diminuez ou vous supprimez carrément les remboursements maladie. Avec ça, nous sommes tirés d'affaire. Alors, il y avait des chiffres à l'appui, que je ne vous ai pas. Donc, j'ai trouvé ça hallucinant. Comme, toute puissance, quoi. C'est un homme qui est dans la toute puissance. Hein, spirituellement, c'est assez clair. C'est vraiment, David qui va coucher avec Bézabé, parce qu'il n'a plus de limite. Plus personne ne peut lui mettre une limite. Et c'est normal. Donc, quand vous gagnez 200 000, 300 000 euros par mois, et ça depuis 20 ans, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Évidemment, vous touchez plus terre, quoi. Alors, bien sûr, parce que vous êtes dans ce bain culturel, vous pouvez aller à une communauté CVX, je ne vous empêche pas, mais d'une certaine manière, on pourrait dire comment est-ce que la parole de Dieu le rejoint? Il y a une telle épaisseur de carapace, d'armure à traverser. C'est une vraie question, un vrai enjeu spirituel, vous voyez. Alors, j'ai parlé avec son accompagnateur, qui m'a dit « Ah, mais je le connais bien, c'est un grand autiste devant l'éternel. » moi je crois que c'est un vrai enjeu spirituel, c'est-à-dire comment est-ce que cet homme-là peut se laisser rejoindre un jour et se laisser toucher.
Les paradis fiscaux, quelle création de valeur économique dans les paradis fiscaux?
Alors, je pense qu'on a dit aucune. J'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout. Hein. Vous savez que sur les paradis fiscaux, nous n'avons pas avancé du tout. Hein. Vous savez qu'après les gesticulations du G20, on a dressé trois listes, noire, grise, blanche. Vous savez que la plupart des paradis fiscaux ont réussi à sortir même de la liste grise en concluant des accords bilatéraux de transparence avec d'autres paradis fiscaux. Donc formellement, sur le papier, ils ont fait ce qu'il fallait, donc ils sont sortis de la liste grise. Donc il n'y a plus de paradis fiscal aujourd'hui dans le monde, officiellement, d'après les critères du G20. En fait, on n'a absolument rien changé. C'est un sujet énorme. Alors, je vous le dis parce que je crois que c'est intéressant. Le vrai sujet des paradis fiscaux, c'est ce qu'on appelle les prix de transfert, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire la manière dont une entreprise multinationale peut tout à fait légalement manipuler sa comptabilité de manière à faire apparaître son profit comptable dans un paradis fiscal. Hein? Par exemple, vous avez des usines BMW au Brésil, au moment où la voiture sort de l'usine au Brésil, elle ne vaut rien parce qu'elle ne porte pas la marque BMW. C'est juste 4 euros avec une carrosserie, ça vaut 3 centimes. Et puis elle passe par l'île de je ne sais pas laquelle, les îles Caïmans, et là on lui met la marque BMW. Et là du coup, tout d'un coup, elle vaut 100 000 euros. Ça vous permet de payer le profit qui est comptabilisé uniquement sur les Caïmans, que dans cette île où évidemment le taux d'imposition est ridicule, et pas au Brésil. Alors c'est ce qu'on appelle le prix transfert, c'est-à-dire les prix auxquels le même bien est facturé d'une filiale à une autre de la même société. Vous voyez ? Donc partout. 50% du commerce international est constitué de biens intra-firmes, d'échanges intra-firmes, donc relèvent des prix de transfert. Et je sais qu'aujourd'hui, dans mon grande boîte industrielle française, c'est le sujet tabou par excellence. Donc, à tel point que moi, quand je discute avec des industriels, ce qui m'arrive quand même assez régulièrement, j'arrête de parler des prix de transfert parce que je sais que la discussion s'arrêtera immédiatement, c'est plus possible. Je pense que les grosses boîtes multinationales ont très bien compris que le scandale est tellement énorme sur les prix de transfert que le jour où l'opinion publique s'en saisira, elles devront arrêter complètement cette pratique. Et c'est une pratique extrêmement lucrative qui pénalise également la France. Puisque du coup, vous avez des usines qu'on ferme en France, Petroplus, vous avez suivi l'affaire de Petroplus en Normandie, vous avez les grosses boîtes du CAC 40 qui ne payent pas d'impôts en France. Alors que les PME, comme vous le savez, sont soumises à des impôts substantiels. Alors, je ne vais pas en citer, mais vous avez des grands majors du CAC 40 en France qui ne payent pas d'impôts sur le territoire français. Donc les lésés, ce n'est pas simplement les pays du Sud, mais c'est aussi nous, au passage.
Oui, mais alors, pourquoi les États ne s'y attaquent pas?
Pourquoi les États ne s'y attaquent pas? Alors, parce que, si vous voulez, là aussi, il y a une pression très très forte de la part de ce milieu-là. Bah, écoutez... C'est-à-dire, les politiques que je rencontre, alors, bon, par exemple, je rencontre Nicolas Hulot. Alors, lui, il ne connaît pas les prix de transfert. Bon, il faut l'expliquer. Mais d'autres politiques, François Mirou, Arnaud Montebourg, tiens, ils connaissent très bien. On leur a expliqué. Alors, il y a un certain nombre de députés qui ne connaissent pas non plus. J'avais créé avec Cécile Renoir, une religieuse assomptionniste, un club parlementaire pour lequel on réunit toujours des députés dans un restaurant à côté de l'Assemblée nationale, et puis au lieu de leur faire la lecture de l'Éric Totonon du Parti Horloge, pendant qu'ils mangent, on leur fait des conférences d'économie et de finance. Bien, la plupart des députés ne connaissaient pas l'existence des prix de transfert, donc on leur a expliqué. Oui. Bon, il y a aussi une grande ignorance, c'est-à-dire que c'est pas un secret, parce que c'est un secret polichinelle, mais c'est un sujet vraiment assez complexe aussi. Hein. Cela dit, il y a un groupe de travail maintenant qui a été créé par le gouvernement, dont François Daubert est directeur, et dont l'un des co-auteurs de ce bouquin, Max de Chanterac, qui est un directeur financier de l'un des grands groupes français du CAC 40, qui a lui fait de l'optimisation fiscale via les prix de transfert pendant 15 ans pour ce groupe, en Europe de l'Est, qui est un cato qui s'est rendu compte un jour qu'il ne pouvait pas continuer à faire ce métier, Max de Chanterac est dedans. Il est dans cette task force chargée de réfléchir sur la réforme de la comptabilité multinationale. Et dans ce bouquin, il fait des propositions très concrètes pour mettre fin à cet énorme scandale.
Alors, en t'écoutant, j'ai quand même une question. Et nous, à notre petit niveau, on a nos yeux qui se dessillent, nos oreilles qui s'ouvrent, mais quel type d'action on peut avoir? Parce que soit au petit niveau, soit au niveau d'équipe, soit même le mouvement, sachant qu'on n'est pas organisé à marcher d'un seul homme.
Alors, moi, je dirais, il y a au moins trois niveaux. Il y a d'abord... comme et prendre conscience du fait que le magistère ecclésial aujourd'hui prend une position courageuse sur un certain nombre de questions. Et dans les débats qu'on peut avoir entre chrétiens, ne plus se cacher derrière le petit doigt du silence magistériel. C'est-à-dire aujourd'hui le Conseil pontifical de justice et paix est entré dans l'arène de la discussion, la Comissée aussi, la Conférence épiscopale de France également. Donc là, il y a un enjeu, à mon avis, qui est de d'abord de lire ce que dit l'Église, et puis de s'en faire l'écho. C'est-à-dire entre chrétiens, au moins, voilà, si on croit que le magistère a une parole qui nous concerne, il y a un deuxième niveau qui est... Je crois que la question éthique qui nous est posée aujourd'hui, c'est de comprendre comme chrétien que la morale de l'honnêteté individuelle ne suffit plus. C'est-à-dire obéir aux règles, ne pas puiser dans la caisse et s'arrêter au feu rouge, c'est plus suffisant. Il faut réformer le code de la route. Parce que les règles elles-mêmes sont mauvaises. Et ça, c'est un travail, disons, d'éthique collective, qui ne se fera pas en deux jours, qui ne dépend pas de l'héroïsme individuel d'une personne, mais de la qualité du débat que nous entamons les uns avec les autres. Y compris avec notre direction dans l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Et alors, du côté de la finance, c'est quand même très clair. Il y a des groupes, la défense que je vois de temps en temps, qui se constituent pour que les uns et les autres puissent réfléchir ensemble et se dire, est-ce qu'on va accepter de faire cette transaction? Est-ce qu'on va accepter de sortir ce produit structuré sur les marchés financiers? Est-ce qu'on va accepter de collaborer loyalement avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers, etc. Le fait simplement de pouvoir se réunir, de vérifier qu'ils portent tous les mêmes questions, de dialoguer entre eux, ça leur donne une énergie pour continuer, disons, le dialogue, qui est extraordinaire. Alors il y a aussi un petit groupe qui vient d'être lancé, que j'ai lancé avec Cécile Renoir de nouveau, qui s'appelle l'entreprise Une Bonne Nouvelle, l'EBN, qui est calqué sur le modèle de la politique Une Bonne Nouvelle, où vous avez, maintenant il y a une vingtaine de cadres, les cadres dirigeants d'entreprises françaises, y compris des grosses boîtes, qui se réunissent régulièrement pour partager entre eux sur comment il faudrait changer la manière dont fonctionnent les grandes entreprises en France, et aussi les PME, à cause de tout ce que je viens de dire. Donc ça, c'est des lieux de fermentation, de discussion, etc. Et puis quand même, le dernier lieu, c'est évidemment le vote politique. Il faut interroger nos responsables politiques et les obliger à prendre leurs responsabilités et à agir, je crois.
Une dernière question, parce qu'après, vous êtes obligé de lutter. Et les journalistes français connus qui ont écrit un livre, mais en marche le capitalisme à l'agonie, et vous
Alors, Paul Joriot a écrit un livre récemment, Le capitalisme à l'agonie. Vous dites il faut réformer le capitalisme. Est-ce que vous pourriez donc un peu mieux expliquer ce qui vous différencie? Pourquoi vous n'êtes pas aussi catastrophiste que lui? Et deuxième question sur l'Europe. Alors, j'ai entendu récemment que on n'avait pas réussi à débloquer, je crois, 500 millions d'euros pour les denrées alimentaires des plus démunis, je crois que c'est 18 millions d'euros, mais qu'en revanche, on avait réussi à donner, je crois l'année dernière, une centaine de milliards aux banques. Alors, est-ce que ça fait partie un peu de cet autisme des financiers et des politiques, puisque apparemment, vous avez dit que c'est la politique économique n'était plus faite par les économistes, pas par les politiques, mais par les économistes.
Alors, je réponds très vite, parce que malheureusement, le temps nous a compté. Sur Paul Joriot, c'est un homme intelligent, et qui a travaillé sur le marché financier, donc il sait de quoi il parle. Là où je ne suis pas d'accord avec la posture qu'il a adoptée, c'est qu'il a pris la posture, si vous voulez, comment il faudrait dire, du prophète qui annonce le malheur et qui s'en lave les mains. Et avec ça, je ne suis pas d'accord. Il faut être lucide. Mais si vous vous souvenez du début du livre de Jérémie, Dieu parle à Jérémie, l'appelle et lui dit « Que vois-tu ?» Jérémie répond deux fois. La première fois, il dit « Je vois des armées qui vont dévaliser le pays du Nord et qui vont arriver sur nous et tout casser. » Et la deuxième fois, il dit « Je vois la fleur d'amandier qui fleurit dans l'hiver. » Et ça, c'est l'annonce, la promesse du printemps. Et donc, Joriot, il lui manque la deuxième réponse, à mon avis. C'est-à-dire, ce n'est pas le tour d'annoncer l'apocalypse. Il faut faire des propositions, engager, susciter l'énergie pour que ça bouge. On ne peut pas juste attendre que l'apocalypse arrive, à mon avis. Après, la deuxième question... Attends, c'était quoi la deuxième question? Les denrées alimentaires. Ben, c'est tout simple, malheureusement. Voilà, Michel Pébrot, il est assis sur 2 000 milliards d'euros. Il sait que si sa banque fait faillite, l'Europe est à genoux. Donc, il obtient ce qu'il veut. Les gens qui sont en précarité alimentaire en France, si nombreux soient-ils, ils n'ont pas du tout ce pouvoir de négociation. Hein, il y a 8 millions de personnes en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui vivent avec moins de 900 euros par mois. Tout compris, en revenus disponibles. Le nombre d'enfants de 0 à 6 ans qui sont en situation de pauvreté, donc en dessous du seuil de pauvreté, a augmenté de 40% sur un an, sur l'année dernière, c'est énorme. Vous avez 1 million de chômeurs de plus sur les 5 dernières années, 3 millions de personnes qui sont en précarité énergétique, ou qui n'arrivent pas à payer leur facture énergétique tous les mois. Voilà, c'est considérable. Mais ceux-là, on les entend pas. Ils font partie des 2/3 invisibles et muets sur l'espace public.
Voilà, Gaël, je crois qu'il faut que je te libère. Alors, encore une fois, un très grand merci à toi.